Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord Diac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangas, des seuls pleureurs, des seuls menhirs.
6h-7h.
Votre jardin.
Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien.
François Sorel.
Patrick Mulan.
Bien sûr, faut imaginer.
Il est 6h11, c'est RMC. Un grand bonjour à vous et merci d'être là. Fidèle au week-end des experts, nous allons évidemment passer une bonne partie de cette matinée ensemble. Attention, jusqu'à 9h, puisqu'à partir de 9h, vous retrouverez, vous le savez encore une fois, la Coupe du Monde de rugby et toute la Dream Team Rugby. Donc pas de rendez-vous vie numérique avec Raphaël Grabli. Mais en revanche, Christian Eka sera là pour la santé. Avec Christian, on va parler des bienfaits du lait, du fromage. Comment éviter et soigner la carence en calcium, vous savez. Que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont en manque de calcium, donc il faut boire du lait. Christian nous expliquera tout ça tout à l'heure. Dans notre rendez-vous maison, on évoquera le soleil qui commence à se raréfier. Peut-on se chauffer uniquement grâce au soleil? Ça sera notre rendez-vous avec Christian Pessé tout à l'heure dans la maison. Et pour débuter, donc, il est à mes côtés, une heure dédiée au jardin, Patrick Mulan. Mesdames, messieurs, bonjour monsieur Miu Miu.
Bonjour monsieur François, bonjour à tous et très bienvenue dans notre jardin qui commence à prendre de très jolies couleurs automnales.
On est d'accord. Tout à l'heure, au menu de ce rendez-vous jardin, la météo du jardinier, hein, Patrick, vous avez un petit peu enquêté, scruté les cartes de Météo France, même si c'est un peu la pagaille. Hein. Côté prévision météorologique, on a l'impression
que ça reste froid, mais bon, ça reste automnal. On va dire.
Voilà, automnal. On saura tout sur les érables du Japon.
Ben oui, justement, je parlais de jolies couleurs, ce sont certainement les arbres et petits arbres les plus colorés en automne.
Vos coups de cœur de la semaine, vos questions, vous pouvez à tout moment nous joindre, nous sommes en direct bien sûr, le 32-16, une question jardin pour Miu Miu, profitez-en, 32-16 ou bien l'appli RMC, direct studio, dans un instant ça sera notre conseil de l'expert, mais auparavant justement, place à vos questions, il est 6h13, c'est RMC, bienvenue. Annie est là. Bonjour Annie.
Oui. Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Annie.
Alors en fait, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y avait un sujet sur les cactus.
Oui.
Et j'aurais bien voulu savoir comment, s'il y avait des précautions particulières pour rempoter des cactus.
Ben, faut déjà faire attention aux épines.
Mais ça, c'est clair, la moindre.
Alors, je voulais vous dire une chose, c'est que vous m'avez envoyé photo. La plante que vous avez, c'est pas un cactus, hein.
Ah, déjà.
La plante que vous avez est une euphorbe. Donc, c'est une plante succulente, mais qui ne fait pas partie de la famille des cactacées. Donc, c'est une plante qui vit dans les Canaries, hein, qui s'appelle Euphorbia canariensis, et qui a tendance à faire effectivement une forme arborescente. Alors, le vôtre, il a beaucoup poussé parce que, en fait, j'ai vu que vous l'aviez attaché et tout parce que il tient pas trop droit. Alors quand la plante manque de rigidité, c'est souvent aussi qu'elle manque de deux choses, que la lumière est un peu insuffisante et surtout que au niveau de la fertilisation, au niveau de la nourriture dont elle dispose dans son pot, il manque quand même du phosphore et de la potasse. Donc il faudra quand même mettre un engrais de temps en temps sur les plantes succulentes. On va mettre une fois par mois.
Il y a un engrais spécifique là ou...
Il y a des engrais pour cactus et plantes grasses.
D'accord.
Dans le commerce, on ne dit jamais le mot succulente parce que ça fait trop scientifique. Mais la réalité, plantes grasses, c'est totalement faux puisqu'on avait expliqué.
Mais oui.
C'est du jus, c'est de la sève, c'est du sucre. Mmh. Et c'est pas du gras hein, qu'il y a. Donc en fait, c'est pas une plante grasse. Bon voilà. Alors pour le rempotage... c'est pas tout à fait la saison. Il vaudrait mieux attendre la fin de l'hiver, le moment où la plante va commencer à redémarrer en végétation, parce que je rappelle que tout ce qui est donc plante succulente et cactée, ça nécessite un hivernage donc dans une pièce très claire, mais assez fraîche, parce que ce sont des plantes qui supportent assez bien des températures basses, on va dire entre 7 et 12 degrés la nuit, c'est idéal, 15-18 dans la journée, de manière à ce que la plante se reconstitue, on va dire, un peu une sorte de réserve, de santé, etc. Et surtout qu'elle puisse, alors sur le phoebe, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais sur les cactus, oui, qu'elle nous fasse quelques fleurs. Alors, pour le cas du rempotage, on va évidemment mettre un pot un peu plus grand pour que la plante soit stabilisée. Faut pas oublier une chose, hein, c'est que la culture en pot, le pot sert à deux choses. Non seulement il sert à avoir un volume de terre suffisant pour que la plante puisse se nourrir, mais il sert aussi et surtout à maintenir la plante debout. Donc il faut organiser la dimension ou choisir la dimension du pot en fonction du volume de la plante, parce que sinon elle tient pas très très bien. Donc dans votre cas, vous allez rempoter donc fin de l'hiver. On fait un mélange de terreau et de sable grossier, avec un bon drainage au fond. On va mettre 4-5 cm d'épaisseur de billes d'argile ou de cailloux ou de pouzzolane au fond pour éviter le compactage et surtout pour éliminer l'eau en excès. Et surtout, il faut faire très très attention au maniement de la plante, parce qu'il est évident donc qu'avec les épines dont elle est recouverte, il y a toujours danger. Alors bien sûr, vous pouvez aussi la réduire. Ça, c'est un truc qu'on oublie de faire. Quand elle est trop grande comme ça et qu'elle perd un peu de sa rigidité, vous pouvez la retailler. Mmh. Alors, faut pas tout retailler d'un coup à la boule à zéro, mais vous pouvez limiter d'un quart la hauteur après. Et tous les éléments que vous allez couper, vous pouvez en faire des boutures. En fait, il suffit de laisser sécher la partie qui a été coupée, et sur les euphorbes, vous verrez, il y a un latex qui va se produire, donc une sorte de lait. Mm-hmm. Donc vous pouvez même éponger un petit peu avec un chiffon, vous laissez pendant une heure ou deux à l'air libre,
ça et va il va y avoir une petite, oui, comme une cicatrisation, c'est
tout
ça
tout à fait, qui va se faire. D'accord. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir, sans aucun problème, donc, des nouvelles plantes, peut-être un petit peu trop, mais voilà comment il faut faire.
Annie, on vous embrasse et merci pour votre question. Et prenez soin de votre forbe et non pas de cactus, hein, c'est ça, hein, Patrick.
Voilà, on a bien compris. Une forbe et pas un cactus.
Il est temps maintenant de retrouver le conseil de Miu Miu.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Alors, Patrick, la question qu'on va se poser en ce samedi matin, c'est le fait de faire ses graines ou pas. Et on va évoquer aussi la protection variétale.
Voilà, c'est lié ensemble. Donc faire ses graines, ça veut dire quoi? Ça veut dire récolter des graines dans le but de les semer pour avoir gratuitement, je dirais, de nouvelles plantes l'année prochaine.
Ça, c'est plutôt cool. Quelles sont les plantes que l'on peut justement facilement propager en récoltant leurs propres semences?
Alors, si on prend le jardin d'ornement, on en a énormément. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de fleurs vivaces, beaucoup d'arbustes, beaucoup d'arbres peuvent se multiplier assez fidèlement par semis. On va plutôt se brancher sur le potager parce que ce sont surtout les cultures qui intéressent la plupart du gens comme ça pour faire des graines et où il y a quand même peut-être un peu de problème. Parce que on a deux catégories de plantes, enfin deux catégories de légumes. On a ceux que l'on appelle autogames, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se féconder avec leur propre pollen, et ceci pendant plusieurs générations, sans que l'on voit des modifications très significatives de la plante au fil des années. Donc, ça sont par exemple les haricots, l'aubergine, la laitue, la mâche, le piment, le pois et la tomate.
D'accord.
Bon, chez les agriculteurs, on en parle très souvent, la plupart des céréales, hormis le maïs, sont des plantes aussi autogames. On peut par exemple récolter un épi de blé, semer les graines et obtenir de nouveau la variété de blé.
Quelles sont les précautions que l'on doit prendre pour obtenir justement de la semence de qualité?
Alors, ce qui est très important, c'est d'éviter toute fécondation accidentelle. C'est-à-dire que dès que un insecte, par exemple, entre en jeu, eh bien, il apporte généralement le pollen d'une autre plante. Ça peut être la même variété. Dans ce cas-là, vous allez avoir encore une fois des graines qui donnent la variété fidèlement, mais ça peut être aussi une autre variété. Et puis surtout sur les plantes que l'on appelle allogames, c'est-à-dire celles qui ne s'auto-fécondent pas, alors là, ça peut être carrément la loterie, parce que vous savez pas du tout d'où est venu le pollen. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas mêler ou de rapprocher des variétés de la même espèce dans le potager, et de les éloigner au contraire, au moins, on va dire de 4 à 5 mètres, de manière à ce que, oui, par exemple, si vous avez deux poids, vous allez avoir des poids à grain lisse, des poids à grain ridé. Bah, on va les écarter parce que sinon ils vont se mélanger, puis vous aurez n'importe quoi.
C'est pas...
Donc, et bien sûr, ce qu'il faut faire aussi, c'est lorsque vous ferez votre semis avec vos propres semences, de bien observer les plantules, de manière à éliminer tout de suite celles qui ne seraient pas homogènes, celles qui seraient différentes, parce que vous auriez d'autres plantes.
Comment doit s'effectuer en fait la récolte de ces graines ? On procède comment, Patrick ?
Alors, il faut travailler par temps sec, à maturité complète du fruit, c'est-à-dire bon, des gousses, des choses comme ça, et puis ne pas attendre trop longtemps, parce que si le fruit est déhiscent, c'est-à-dire s'il est capable de s'ouvrir, eh bien, vous allez avoir la chose suivante, c'est que les graines vont tomber par terre, vous ne les retrouverez pas. Et puis donc, une fois que vous avez séché ces graines, vous les triez, vous les étiquetez aussi, ça c'est important, parce que après, s'y retrouver, c'est pas évident, et vous les mettez en sachet, et puis vous pouvez les placer.
On les met en sachet, en fait, on prend quoi, des petits sachets
Des sachets de papier, c'est vraiment l'idéal.
Parce que ça peut respirer un petit peu quand même, c'est ça ?
Voilà, il faut que ça reste bien au sec, c'est la chose la plus importante.
Est-ce qu'on peut conserver ces graines longtemps et comment, en fait ?
Alors, il y a des espèces, par exemple, comme les nénuphars, ou même certains dattiers qui peuvent durer des milliers d'années. On l'a déjà fait, on a retrouvé des plantes qui dataient pratiquement des pharaons, et on les a semées, ça marche.
Ça marchait.
Mais on va dire que globalement, pour les légumes, il vaudrait pas attendre plus de 2 ans. L'idéal, c'est quand même de prendre les graines maintenant pour les semer au printemps. Comme ça, vous avez le maximum de facultés germinatives.
Plus on attend,
plus on attend, plus
moins
vous
on aura de chances de ça germe.
C'est-à-dire que le pourcentage de graines viables se réduit d'année en année. Conservez-les aussi au frigo, ça peut être très très bien.
Très bien. Quelles sont les plantes que vous déconseillez, dont vous déconseillez la récolte, par exemple ?
Alors, surtout les cucurbitacées. Pourquoi ? Parce que les cucurbitacées sont des plantes qui sont monoïques, ça veut dire qu'il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied, mais que, la nature faisant bien les choses, les fleurs mâles ne s'ouvrent pas au même moment que les fleurs femelles. Donc, quand les insectes, qui sont les agents pollinisateurs indispensables des cucurbitacées, viennent visiter vos plantes, eh bien, ce n'est pas le pollen de la même plante qu'ils transportent, mais une autre. Donc, vous avez énormément de chances d'avoir des hybrides. Et parfois, vous avez même des hybrides intergénériques. Par exemple, les concombres peuvent très très bien s'hybrider avec des cucurbitacées sauvages ou des cucurbitacées qui n'ont pas d'intérêt gustatif. Et après, vous allez semer les concombres et vous direz « Ah, ils sont pas bons, ils sont amers, etc. » Donc ça, c'est pas très très évident. Donc évitez ça. Ou alors, vous procédez vous-même à la fécondation. C'est-à-dire que vous évitez l'insecte. Donc vous allez prendre le pollen sur la plante et le déposer sur le pistil de la fleur femelle et mettre un petit capuchon en papier dessus pour éviter qu'un insecte vienne. Dans ces cas-là, vous êtes sûr de votre coup.
Ça peut marcher. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce sujet. Patrick, on va revenir dans un instant. Il est 6h24, c'était RMC. On va parler des érables du Japon. Voilà un arbre majestueux. Vous avez des questions, justement, sur le fait de semer vos graines, pourquoi pas, ou bien sur les érables qu'on va évoquer dans un instant. N'hésitez pas, le 32-16 est à votre disposition. Patrick Mulan est là. Vous pouvez aussi nous joindre via Direct Studio. Petit rappel sur Direct Studio, en nous posant votre question, laissez-nous aussi votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler dans les minutes qui viennent. Voilà, ça marche évidemment via l'appli RMC. A tout de suite.
RMC. 6h-7h. Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Il est 6h30, pile. Merci d'être avec nous sur RMC et un bon week-end. Patrick Mulan est toujours à mes côtés, c'est votre rendez-vous jardin jusqu'à 7h. Patrick, nous allons maintenant évoquer un arbre majestueux, superbe. Moi, personnellement, j'en ai un sur ma terrasse. Alors là, en ce moment, il est un peu rachitique parce qu'il a perdu toutes ses feuilles, ce qui est normal.
Il est en hiver, lui.
Voilà, il est en hiver, ça y est, il a décidé de nous dire au revoir, mais il reviendra le printemps prochain. On va évoquer donc les érables du Japon maintenant.
Eh oui, parce que ce sont quand même des petits arbres de saison.
On se met en ambiance, vous avez vu ?
Ouais. On est sûr, oui, de la musique zen.
Un petit peu zen, voilà. Alors pourquoi avoir choisi de mettre en vedette aujourd'hui les érables du Japon, Patrick ?
Parce que je les aime bien. Non, écoutez, c'est gracieux, c'est beau, c'est élégant. Il y en a énormément de variétés. Et puis, surtout, c'est certainement un des arbres dont les couleurs d'automne sont les plus flamboyantes. Et d'ailleurs, chez vous, vous avez pu voir, chez vous, il était rouge vif, mais il y en a qui sont dorés, il y en a qui sont cuivrés. Donc ça aussi, en fonction des variétés, c'est différent. C'est très architectural. Alors, c'est plutôt arrondi, c'est plutôt ample, avec des feuilles palmées, vous verrez pourquoi. Donc palmées, ça veut dire comme les doigts d'une main ouverte. Et avec une, on va dire, une croissance assez lente. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on veut les mettre dans un petit jardin, ou quand on veut les cultiver en pot, vous les avez dans un grand bac, ça fonctionne.
Dites-nous quelques mots sur les spécificités des érables du Japon, Patrick.
Alors, on en a trois espèces courantes, essentiellement Acer palmatum, je vous disais donc palmé, Acer palmatum, Acer japonicum et Acer shirawazanum. C'est des plantes du Japon, de Chine, de Corée. Donc les feuilles sont opposées comme chez tous les érables et avec des feuilles qui peuvent avoir des formes et des tailles très variables, entre 5 et 10, 12 cm de long et qui peuvent être aussi, on entend parfois Acer palmatum, découper, vraiment l'assigner. Et puis, on a des fruits qui sont décoratifs.
Patrick, on va changer de micro parce que visiblement, le vôtre a un petit problème. Alors, il y en a juste un à côté. Voilà, on va déplacer Patrick.
Ben oui, je m'entends mal.
Oui, voilà, ça marche mieux là. Et là, je pense qu'on aura moins de problèmes avec ce micro. Je ne sais pas ce qu'il y a, il fait un drôle de bruit.
J'avais des crachouillons dans, dans les oreilles.
Oui, c'est là, ça. On a l'impression, en fait, que vous faites un barbecue. Alors que bon, là, on parle d'érable, donc c'est pas ce qu'il faut.
Non, justement, vous... puisque vous parlez de barbecue, je parlais qu'à la fin de l'été, vous avez des fruits décoratifs. Vous savez, les petits hélicoptères qu'on dit quand on est enfant, avec des petites ailes, qui sont rouges, donc qui sont très jolis. Et puis, bon, c'est un arbre avec des racines assez superficielles. Donc ça, c'est important pour la culture, parce qu'il... Il est du coup très sensible à la sécheresse.
Quel est le type de sol qui convient le mieux aux érables du Japon ?
Alors c'est un arbre qui vient des zones montagneuses forestières, donc il aime les sols humifères, donc riches en matière organique, et acides. Acide, on est sur un pH inférieur à 6. Donc attention, la terre de bruyère, par exemple, alors mélangée à du terreau, ça devient... C'est mieux parce qu'en fait, c'est une plante qui a quand même besoin d'être un petit peu nourrie. Et avec un sol qui doit rester frais, voire légèrement humide par temps chaud. C'est important.
Avant de poursuivre sur le Japon, justement, une question érable. Et c'est Jean-Luc que nous avons au 32-16. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
Bienvenue Jean-Luc sur RMC.
Merci. Bah écoutez, le sujet m'intéresse fortement puisque je me suis renseigné sur internet concernant cet arbre qui est plutôt rare et dont j'avais pas toutes les réponses. Et c'est vrai que c'est un arbre qui nous demande beaucoup d'attention. J'ai l'impression qu'il a du mal à se développer, alors soit qu'il est en pot. Et on hésite à le planter parce qu'on connaît pas les conséquences qu'il pourrait y avoir. Et les proportions qu'il aurait.
Ah bah ça dépend la variété que vous avez choisie. Bon, on va dire que de toute façon, la croissance étant lente, avant d'avoir un arbre qui devient très grand, bon, maximum, un érable du Japon, c'est 10 mètres. Hein, vous en avez rarement qui dépassent les 10 mètres. Dans nos régions, dans nos jardins, moi j'en ai aux jardins qui sont en pleine terre, qui ont... Oui, au moins une vingtaine d'années, ils font 5-6 mètres de hauteur, les plus grands. Et puis, il y en a des petits qui restent autour de 1,50 m. Donc ça, quand vous choisissez votre variété, il faut bien regarder les données qui sont présentées par le pépiniériste. Alors, je vous rappelle, donc, sol humifère et acide. Si c'est possible, dans votre jardin, donc, d'avoir une belle fosse d'environ, allez, 1 mètre de côté, 50-60 centimètres de profondeur, dans laquelle vous allez mélanger terreau et terre de bruyère, ça va très très bien en pleine terre. Ce sont des arbres qui sont particulièrement rustiques. Ils n'aiment pas les gelées printanières. Ça, c'est une certitude. Ça peut cramer les jeunes feuilles lorsqu'elles débourrent, comme on dit, lorsqu'elles commencent à se développer. Si vous avez une gelée à ce moment-là, eh bien, ça va agresser la plante. Et puis surtout, ce qu'il déteste pas, mais vraiment au maximum, c'est les températures que l'on a eues cette année, donc des canicules comme cela. Donc dans les jardins, on va planter les érables du Japon plutôt sous la frondaison d'arbres plus grands. On va les mettre dans une lumière tamisée. Ça, c'est quand même très important. Mais en pot, s'il va pas très bien, c'est peut-être qu'il a besoin d'être empoté aussi.
Ah, hein. Voilà. Parce d'ailleurs, moi, je me pose la question, pour tout vous dire, Jean-Luc, j'en ai un aussi. Et Patrick me conseille peut-être aussi de réfléchir à ça. Sauf qu'il est tellement gros.
Voilà. Alors, le vôtre, François, il est très très grand. Donc, ce qu'on va y faire, c'est simplement un surfaçage.
Voilà,
c'est-à-dire qu'on va gratter
la terre,
le maximum de terre que l'on pourra avoir en surface sans abîmer les racines, et on remplacera par un substrat neuf.
Jean-Luc, ça vous va ?
D'accord, ben, écoutez, très bien. C'est vrai qu'il, comme vous le disiez, il perd ses feuilles assez fréquemment, peut-être la moitié de l'année, il est carrément sans feuilles.
Ah ben, c'est normal, de toute façon, c'est un arbre caduc. C'est-à-dire que à partir de maintenant jusqu'au printemps, de toute façon, il n'aura pas de feuilles. Hein. Ça, si les garde, au contraire, c'est inquiétant. Hein.
D'accord.
Alors, surtout aussi, je voulais préciser pour tout le monde une chose, c'est que lorsque vous achetez une plante, bon, là, en l'occurrence, un érable du Japon, il est ou elle est en conteneur, donc dans un pot. Ce n'est pas un pot de culture.
Ah oui.
C'est un pot de production.
D'accord.
Et
oui.
Vous devez.
C'est temporaire, en fait.
Voilà. Si vous n'avez pas l'intention de le mettre directement dans votre jardin au moment de l'achat, il faut acheter un autre pot, plus gros. Avec
d'accord.
un substrat neuf pour pouvoir le cultiver pendant un certain temps dans le pot.
Jean-Luc, merci. D'accord. Merci beaucoup. Vous travaillez là,
merci
actuellement?
Oui, je travaille.
Qu'est-ce que vous faites comme job?
Ben, je suis chauffeur de bus.
Ben, en tout cas,
bonne route.
Merci
ben, bonne journée.
De nous écouter. Et puis à très bientôt, Jean-Luc. Au revoir.
Merci bien, au revoir.
Et voilà, et tout comme Jean-Luc, hein, si vous voulez joindre Patrick Mulan, on évoque les érables du Japon. N'hésitez pas, 3216, l'appli RMC Direct Studio, et vous nous laissez votre numéro de téléphone. Patrick, quelle est l'exposition favorite des érables du Japon?
Alors, je disais à Jean-Luc tout à l'heure, quand on le met en pleine terre, il faut qu'il soit quand même plutôt légèrement ombragé par un arbre feuillu de préférence, parce que un conifère, ça donne vraiment une ombre extrêmement dense, donc ça a besoin de lumière, mais d'une lumière tamisée. Nous, au jardin, on en a certains qui sont carrément à l'ombre, assez dense, et c'est notamment à conseiller pour tous les érables du Japon qui ont des feuilles très claires, et aussi tous ceux qui ont des tiges rouges. Alors, plus ils sont panachés aussi, il y en a des panachés pratiquement blancs et verts, ceux-là, vraiment pas le moindre rayon de soleil direct. En revanche, il y en a certains, et notamment les plus grands, qui tiennent assez bien, même en pleine lumière, à condition de ne pas manquer d'eau au niveau du pied.
Ça, c'est important aussi. Est-ce que les érables du Japon sont sensibles au froid, Patrick?
Alors non, je disais simplement, ils craignent un peu les gelée printanière au moment où il commence à se développer. Il y a des érables du Japon qui tiennent sans aucun problème à moins 20 degrés. Mmh. Les érables du Japon classiques que vous trouvez dans le commerce, ils sont tous très rustiques. Donc ce sont, alors ça, c'est important. C'est pas parce qu'on les cultive éventuellement en pot que c'est plein d'intérieur, hein. Faut vraiment les laisser dehors
bien sûr.
L'année.
Bah oui. Est-ce qu'on peut facilement cultiver en bac un érable du Japon?
Bah oui, vous en êtes le meilleur exemple, mais il faut un bac de grande taille, ouais. Au moins 40 cm. Et puis arriver, si possible, à rempoter tous les 3 à 5 ans.
Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'il faut tailler les érables du Japon?
Alors, c'est assez rare qu'on en ait besoin, parce que, comme je disais, ça pousse lentement. Mais si vous avez une branche qui est mal placée, supprimez-la. En revanche, ne taillez pas les érables du Japon pendant la période de végétation. Vraiment, taillez entre la semaine prochaine, hein, début novembre, et début mars.
Très bien. Est-ce que je dois apporter de l'engrais à mon érable?
Alors oui, quand il est en pot, parce que c'est pas une plante particulièrement gourmande, mais dans les pots, il n'y a pas toujours grand-chose, et puis surtout dans la terre de bruyère non plus. Donc une fois par an, vous pouvez mettre un engrais au début du printemps, un engrais à action lente et progressive pour arbustes tout simplement, ou pour rhododendrons, ça donne des bons résultats.
Très bien. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous appeler, hein, si vous avez des questions concernant le jardin ou bien les érables du Japon qu'on est en train d'évoquer avec Patrick. Est-ce que les érables du Japon, alors vous disiez qu'ils sont rustiques, mais est-ce qu'ils craignent certains bio-agresseurs?
Alors pas particulièrement quand ils sont plantés dans des conditions favorables. Ce que craint par-dessus tout l'érable du Japon, c'est l'humidité stagnante en hiver. Ça a besoin de fraîcheur et d'humidité en été, mais en hiver, il ne faut pas que ça ait les pieds dans l'eau. Parce qu'à ce moment-là, vous risquez de voir apparaître ce qu'on appelle le pourridier. C'est un champignon qui s'appelle l'armillaire couleur de miel. Et ça, ça vous ratatine votre arbre en une semaine. Hein.
Tiens, on a Sylvain qui nous dit sur Direct Studio, bonjour, dans le Nord Pas-de-Calais, les érables du Japon en pleine terre sont souvent soumis à la verticillose due à la culture de pommes de terre.
Oui, la verticillose, c'est un champignon qu'on trouve dans le sol, mais sur l'érable du Japon, ça fait quelques taches qui sont pas vraiment catastrophiques, enfin, en général.
Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les érables du Japon. Franchement, si vous avez la place et si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à en planter un. C'est magnifique.
C'est magnifique. Vraiment. Et si vous n'avez pas la place, vous savez, ça fait de très très beaux bonsaïs.
En plus. En
d'extérieur. Plus.
Exactement. Patrick, on va revenir dans un instant. Météo du jardinier, vos questions, hein, n'hésitez pas. On est en live avec Patrick jusqu'à 7h. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans une minute. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous jardin. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Le retour de ce week-end des experts, c'est le jardin. Pas mal de questions concernant les érables du Japon. Patrick sur Direct Studio. Oui. Jean-Louis qui nous dit, j'ai un érable du Japon en bonsaï. Dois-je le rentrer en hiver?
Bah, je crois que j'ai été clair en disant que
non.
Les bonsaïs d'extérieur.
Même les bonsaïs? Ah oui, voilà, c'est ça.
Non mais attendez. Un bonsaï, c'est une plante en pot.
Non mais on se dit comme c'est petit, c'est fragile.
Non mais je vais me fâcher. Non. Bonsaï, plante en pot. Plante frileuse dedans, donc plante tropicale, etc., bien sûr, d'intérieur. Plante d'extérieur, style pin, érable, ginkgo, glycine, charme, etc., dehors. Voilà.
Voilà, dehors. Il prend la porte, votre érable, tout simplement. Ça, c'est. Ben voilà, écoutez, c'est comme ça.
Alors, bien sûr, vous le mettez dans un endroit un peu plus abrité, faut pas que. Enfin, globalement, il faut le protéger un peu, mais c'est tout. Voilà.
Gérard est avec nous au 32-16 et après, ça sera la météo du jardinier. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour Gérard.
Bienvenue Gérard, on vous écoute.
Merci. Alors, la question, s'il vous plaît, c'est ça se passe en altitude, à 1700 mètres d'altitude, dans les Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il existe des arbres qui puissent produire des fruits à cette altitude?
1700 mètres, c'est déjà un peu haut, mais pourquoi pas? Alors déjà, vous avez les myrtilles. Les myrtilles, ça pousse très très bien en montagne. Mais non, mais sinon, pour pas plaisanter, pommier, poirier, cerisier, ça doit donner des possibilités. En choisissant des variétés aussi tardives que possible, notamment au niveau de la floraison, de manière à ce que vous soyez sûr, ou du moins presque sûr, de ne pas avoir un gros coup de gel pendant la floraison. C'est la seule chose qui est importante, parce que la rusticité intrinsèque de ces plantes ne pose pas de problème. L'hiver, la neige, tout ça, il n'y a pas de problème. En revanche, au moment du réveil de la végétation, et vous avez pu remarquer que la floraison se fait avant l'apparition des feuilles, eh bien, il faut à ce moment-là que les conditions soient suffisamment bonnes. Mais là, il n'y a pas de problème. Et donc, n'hésitez pas surtout. Alors, dans un cas comme ça, mon conseil, c'est extrêmement simple. Allez chez un pépiniériste de la région. Il va vous conseiller des variétés qui peuvent être bien adaptées à votre région. Ça, c'est très, très important. Mais vous pouvez tenter le coup. Alors, en revanche, bien sûr, pas pêcher, hein, pas d'abricotier, encore moins d'amandier. Ni de figuier. Hein, tout ça, on le laisse pour la plaine et pour les endroits plus chauds. Mmh.
Ça vous va, Gérard?
Impeccable.
Parfait. Eh bien, bon week-end, Gérard. À bientôt.
Bon week-end.
Et si, tout comme Gérard, vous voulez joindre Patrick Mulan, le 32-16, bien évidemment. La météo du jardinier maintenant, en ce samedi 26 octobre 2019, Patrick.
Alors, nous avons une météo qui est automnale. Quand je dis automnale, c'est attention, les matinées vont commencer à être un petit peu fraîches, puisque l'on va avoir, à partir de mercredi, dans la frange vraiment nord du pays, des températures qui sont annoncées à 3 degrés au petit matin. Donc ça veut déjà dire, comme c'est sous abri, des risques de gelée. Donc tout ce qui est frileux, on va commencer à protéger tout ce monde-là dans ces régions-là.
D'accord.
Après, sur la partie sud de la France, on reste dans des périodes quand même encore assez agréables. Peu d'eau sur le sud de la France, en revanche pratiquement des pluies régulières, pas toujours fortes, mais sur l'ensemble de la moitié nord du pays.
Ça c'est bien ça, non ?
Voilà, c'est bien, oui, on va dire que ça commence à être très très bien, parce que les pluies n'ont pas été violentes, ça rentre bien dans le sol, hormis ce qui s'est passé cette semaine dans le sud.
Ah, oui.
Où là il y a eu trop d'eau d'un coup, et où cette eau ravine. Alors, dans les régions qui sont soumises à des orages violents, il est très important de prévoir des paillages. Pourquoi ? Parce que ça va faire une couche tampon entre la précipitation et le sol pour éviter de raviner. Donc ça, laisser du paillis en place, parce que c'est vraiment très bien. En revanche, il faut considérer quand même que le paillis, lui, prend aussi de l'eau pour lui.
Mmh.
Donc il faut de temps en temps savoir ce qui se passe dessous pour les plantes. Sinon, bon, c'est la bonne période de plantation pour beaucoup, beaucoup de choses. On est encore en pleine période de bulbe, donc allons-y planter,
ouais.
Récolter aussi, parce qu'il ne faut plus laisser trop longtemps maintenant les plantes à l'extérieur. On risque peut-être d'avoir des gelées la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, c'est déjà la semaine prochaine, mais la semaine d'après,
ouais.
Je dirais, parce qu'on va rentrer dans le mois de novembre, et là, il y a toujours un petit peu de risque.
Bon, voilà, donc une météo, on va dire, conforme à la saison. Il n'y a pas de... voilà.
Oui,
tout est normal.
Mais plutôt pas désagréable.
Il est 6h51, Patrick, pour terminer, évidemment, vos coups de cœur jardin de cette semaine.
Alors, je vous emmène, ou je vous conseille d'aller à Terra Botanica ce week-end. Terra Botanica, c'est à Angers, c'est le parc du végétal, il y a la fête de l'automne. C'est une ouverture exceptionnelle parce que le parc est déjà en fin de saison. Il y a plein de balades, il y a une cucurbitèque, dites donc. C'est quoi une cucurbitèque ?
Je ne sais pas.
Il y a une présentation de cucurbitacées, de variétés. Il y aura des jeux pour les enfants, etc. Donc ça va être vraiment très sympa s'il fait assez beau, mais je pense que ça devrait être correct. La semaine du 8 au 10 novembre, donc pas le week-end prochain, mais dans 15 jours, vous avez un super colloque qui va y avoir au Jardin Botanique et au Musée Aquarium de Nancy. C'est sur le thème des collectionneurs et les collections. Ce n'est pas du tout réservé à des professionnels, bien au contraire, c'est pour vous inciter à avoir envie de collectionner les plantes et vous faire comprendre à quel point c'est important. Il y a un site internet, vous faites colloque collection Nancy et vous pouvez vous y inscrire. Je vous y engage vivement. D'ailleurs, moi, j'irai personnellement le samedi et le dimanche. Après l'émission, on va filer à Nancy pour aller voir ça. Non, parce qu'il y a énormément d'intervenants qui vont dire des trucs passionnants. Et puis, un magnifique livre dont je voulais vous parler, qui est un bon livre dans la lignée de tout ce que l'on présentera maintenant par rapport aux prochaines fêtes de fin d'année. Ça s'appelle Le Domaine du Rayol, Oser les Méditerranées, de Jean-Philippe Grillet et Gilles Clément chez Actes Sud. Un livre qui vaut quand même 39 euros, mais qui est vraiment très, 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 très intéressant. Il a été sorti à l'occasion des 30 ans de ce domaine qui appartient au Conservatoire du Littoral et dans lequel il y a une collection végétale subtropicale incroyable. Et ça vous raconte l'histoire, en fait, de ce lieu totalement emblématique qui a été en partie conçu par le paysagiste Gilles Clément. Donc, je vous le conseille, c'est chez Actes Sud.
Merci Patrick. Tiens, juste avant de se dire au revoir Patrick, sachez que on offre, vous et moi, un beau cadeau à nos auditeurs. Avec Mano Mano, on vous offre votre poêle à bois.
C'est
un beau cadeau ça quand même, attendez.
Pendant l'émission de Christian ?
Alors, non,
maintenant.
Là, vous pouvez jouer avec nous. Et ce sera le cas aussi dans l'émission de Christian entre 7 et 8. Un poêle à bois, parfait pour l'hiver qui arrive. Alors, pour remporter ce poêle à bois, dès maintenant, vous pouvez nous envoyer le mot jardin, tout simplement. Jardin par SMS au 732-16. Dépêchez-vous, jardin par SMS au 732-16.